Radio Barque, alors pour cette 37e et dernière de notre saison, symboliquement nous clôturons avec le député fraîchement élu Alain Perea. Je précise aussi que nous vous avons reçu plusieurs fois cette année, que ça n'est pas un hasard, parce que finalement on s'aperçoit que cette année politiquement aura été une année Macron, et comme vous faites partie des probablement des tout premiers en Arbonnaise qui l'ont soutenu, et c'est une des raisons pour lesquelles on vous a invité plusieurs fois, eh bien c'est aussi pour vous une année importante, j'imagine, qui change un petit peu votre vie d'une certaine façon. Alors maintenant, vous êtes élu, ça y est, vous êtes en marche, alors, au sens le plus concret. On aimerait connaître, Alain Perea, vos premiers ressentis sur l'expérience des quelques jours de la vie d'un député. Et d'un député Macron.
Alors, deux choses. Une locale, c'est... il y a une énorme attente. Je l'ai ressenti pendant la campagne. Je l'avais ressenti bien sûr avant, sinon je ne me serais pas engagé dans cette démarche politique.
Bah, ce vote l'a démontré aussi.
Ce vote l'a démontré. Et là, je suis arrivé hier soir et déjà avant d'arriver, je suis déjà au contact et j'ai déjà des rendez-vous. Et je compte continuer à être présent. Donc, énorme attente et on va travailler. Le passage à Paris et à l'Assemblée nationale me fait dire que les choses ont changé et que nous allons changer des choses. Déjà, ça peut apparaître symbolique, mais vous n'avez pas une seule table des députés En Marche qui ne soit pas une table mixte.
Oui, sur le plan de mixité statistique, on l'a remarqué.
Mais les autres partis sont souvent soit des tables hommes, soit des tables femmes. Mais surtout, dans le fonctionnement même de l'hémicycle, et il y a eu quelques, je dirais, soubresauts, parce que nous avons montré, dès le premier vote, que nous avions envie que les choses changent et que l'on n'allait pas rester sur des petits accords qui sont des accords, certains nous ont rappelé qu'ils étaient l'héritage de Robespierre, bon, très bien, mais aujourd'hui on se doit de faire avancer la France. Et donc nous sommes véritablement dans une logique, les choses ont changé et nous impulsons au niveau national cette volonté-là aussi.
Oui, mais forcément, il va y avoir, et je crois que M. Macron l'a fait ressentir clairement, il y aura une discipline de groupe. Vous ne pourrez quand même pas, dans les votes, faire ce que vous voulez. Et précédemment, pendant la campagne, vous reprochiez à Mme Fabre d'être, je cite, aux ordres de Solferino. Vous, forcément, vous serez un petit peu aussi aux ordres de quelqu'un.
Alors,
comment voyez-vous ça?
Deux choses. Il ne faut pas confondre être aux ordres et être dans une logique qui est une logique de groupe. C'est complètement différent. Et le plus bel exemple que je pourrais vous donner, c'est le fait que j'ai réussi à obtenir la vice-présidence de la commission développement durable et aménagement du territoire. Mmh. Dans les fonctionnements traditionnels, et d'ailleurs, vous pouvez le regarder, Madame Fabre n'avait aucune vice-présidence. Dans les fonctionnements traditionnels, c'était un découpage qui était organisé par les grands chefs des partis et qui attribuait en fonction de l'histoire, en fonction de tout un tas de choses. Là, il y a eu un appel à candidature et nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. Ça m'a coûté quasiment deux nuits de réunion, mais j'ai réussi à faire valoir mon expérience, mes enjeux, ma vision des choses, et j'ai été élu sur ce poste-là. Et donc, là où les choses ont changé, c'est que nous passons d'une logique qui est une logique verticale, avec les ordres arrivent d'en haut et on exécute, hein, à une logique de groupe. Après, bien sûr, mais vous savez, moi j'ai joué au rugby, et on avait une discipline d'équipe. Et bien là, nous allons avoir une discipline de groupe politique, mais les choses ont changé parce qu'on ne fonctionne plus de la même façon.
Oui, Michel.
Oui, une petite information au sujet du groupe, justement, Languedoc, La République En Marche, décidément. Quatre vice-présidents, hein, pour le groupe en question, le président étant Ferrand, quatre vice-présidents. Et sur quatre vice-présidents, deux femmes.
Et c'est donc, parité, non, oui, belle parité.
Mais pas que ça, deux femmes de la région, enfin de l'ex-Languedoc-Roussillon. Madame Danielle Hérin, qui est députée carcassonnaise, d'une part, et d'autre part...
Et en plus, deux Audois, en plus.
Et d'autre part, Madame Dubosc, de Montpellier. Ça n'est jamais fait arriver dans l'histoire politique de cette région d'avoir deux femmes à ce niveau-là de responsabilité dans la gestion d'un groupe politique aussi important.
Bon, alors espérons que la voix du midi se fera entendre enfin, mais ce que vous dites, Alain Perea, c'est qu'il y a un frémissement, il y a un changement que vous percevez
alors,
dans la façon de fonctionner, dans le quotidien.
humblement, je ne peux le percevoir qu'au regard, non pas d'une expérience, puisque tout le monde le sait, c'est mon premier mandat, mais au regard du fonctionnement des autres groupes. Et les autres groupes sont totalement déboussolés. Ils sont totalement déboussolés.
Ils sont sur du traditionnel.
Exactement. Alors, ils essayent de nous renvoyer sur notre incompétence, notre ce que vous voulez, le fait que l'on soit des novices. Mais, moi, je n'ai pas à rougir du résultat des assemblées précédentes. Parce que là où ils ont emmené la France, et le rapport de la Chambre de la Cour des comptes le montre, n'est pas très brillant. Donc, se faire, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, se faire enfariner sur le budget tel que c'est arrivé, moi, qu'ils viennent pas me parler de novices. Et ensuite, sur la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, en dehors de Christian Jacob et de Ciotti, tous les autres au niveau des Républicains, je les ai vus fonctionner, ils sont tous aux ordres et ils attendent qu'on leur donne des consignes. Nous, on ne fonctionne pas du tout pareil. Donc oui, je sens un frémissement, oui, je sens du changement et surtout, je sens que nous sommes plus en phase avec les demandes des Françaises et des Français. Et en tout cas, à l'échelle de la circonscription, je sens que on est plus en phase avec ce que l'on vit au quotidien et non pas dans un monde, une bulle coupée avec une organisation qui est une organisation totalement différente de la société française.
Alors une petite parenthèse, on va revenir évidemment à l'impéréa sur le fond, c'est ce qui nous intéresse, mais sur la forme, votre concurrent au deuxième tour, Monsieur Darrot, a, paraît-il, déposé un recours contre vous. Avez-vous des nouvelles à ce sujet ?
Alors non, je n'ai aucune nouvelle. Ce que je sais, c'est que le dossier a été étudié par le ministère de l'Intérieur, le dossier a été étudié par le service juridique de l'Assemblée et qu'il n'y a absolument aucun souci. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que M. Darrot s'est répandu partout en disant qu'il allait faire un recours contre mon fameuse inéligibilité, sauf que c'est après avoir annoncé ça qu'il a demandé les pièces juridiques pour étayer sa demande. Voilà, donc moi je n'ai absolument aucun souci. Et puis il nous a montré toute cette campagne que il était là pour faire amuser le peuple et faire des propositions qui étaient des propositions totalement à l'opposé de ce dont on a besoin et totalement à l'opposé des compétences d'un député. Il essaye encore une fois de continuer à exister. Il ne m'empêche pas de travailler, il ne m'empêche pas d'avancer. Et je voudrais juste rappeler que depuis les élections, les Narbonnaises et les Narbonnais ne l'ont plus revu. Preuve que ce monsieur était venu là pour se faire élire et que au final, il n'en a rien à faire des Narbonnaises et des Narbonnais. Donc qu'il nous laisse tranquille et qu'il retourne d'où il vient.
Oui, certains, alors c'est une remarque digne de Radio Barque, certains regretteront peut-être la réouverture des maisons closes qu'il avait annoncée et promise.
Oui, comme maison close et un parc médiéval aussi.
Oui, les deux, voilà. En fait. Alors, revenons quand même sur les choses sérieuses. Donc, sur le fond, j'imagine forcément maintenant que vous avez devant vous un programme, une feuille de route, et notamment pour l'été. On a parlé tout à l'heure des ordonnances, vous devez faire vite. Comment s'annonce pour vous l'été ? Peu de plages, on imagine.
Oui, et puis de toute façon, je l'avais dit, c'est un engagement que j'avais pris. Y compris quand l'Assemblée ne fonctionnera pas, moi je resterai sur le terrain et je continuerai à travailler, je n'ai pas prévu de partir en vacances, je resterai sur place. Alors, je ne suis pas intervenu tout à l'heure au moment des ordonnances, je laissais la parole à Michel Santo, je voudrais juste informer les auditeurs que jeudi après-midi, la commission des affaires sociales a déjà commencé à travailler sur la fameuse réforme du code du travail, c'est-à-dire que cette ordonnance va être proposée donc au vote, mais déjà les députés, notamment la commission des affaires sociales dans laquelle siège la députée de Limoux, de la 3e circonscription de l'Aude, est déjà au travail.
Madame voilà. Robert.
Oui. Donc tout ça pour dire que le moment où nous allons avoir le vote de cette ordonnance, déjà nous aurons beaucoup beaucoup travaillé. Donc ce que nous a annoncé le responsable du groupe, donc le président du groupe Richard Ferrand, c'est que normalement nous allons travailler jusqu'à la première semaine d'août et que nous reprendrons nos travaux au niveau du 20 août, donc la semaine du 20 août. Donc bon, voilà, l'Assemblée devrait s'interrompre.
Une petite quinzaine,
mais
au vert.
Mais je tiens à rappeler que c'est pas tellement les députés, c'est aussi tout le personnel de l'Assemblée. Ces personnels ont droit aussi à des congés. Et je tiens à saluer, alors je pense pas qu'ils m'écoutent, mais donc je le fais avec encore plus de, je dirais, de de fond, c'est que j'ai été vraiment, vraiment impressionné par la sympathie, le professionnalisme et l'accueil de tout ce personnel de l'Assemblée qui, véritablement, sont des vrais professionnels. Et nous pouvons être fiers de nos fonctionnaires parce que souvent, on critique les fonctionnaires. Et là, ils sont absolument exceptionnels.
Oui, Michel, une remarque.
Oui, Jean-Claude, à l'Impéria, je ne l'ai pas dit pendant la campagne, ni écrit dans mes billets, mais un des rôles d'un député, et surtout d'un nouveau député comme vous, d'un nouveau mouvement qui n'est pas encore structuré en tant que parti, est aussi un rôle politique. Et un rôle politique, sur sa circonscription, comme Marie-Hélène souhaite le faire à l'avenir, de structuration, d'animation et de structuration de son mouvement pour ensuite tenter de conquérir de nouveaux mandats, de nouvelles positions de pouvoir, entre guillemets, dans ce territoire.
Donc, question
il est prévu, voilà. Donc la question est toute simple. Bien entendu, je n'en doute pas une seule seconde, vous allez forcément jouer et nécessairement ce rôle.
Un rôle politique.
Et pour vous, comment vous voyez un peu ces échéances à venir,
comment ça se profile déjà dans votre esprit à l'Impéria?
C'est ce qui se passait dans les partis traditionnels. Parce que Michel Santo a très régulièrement rappelé quel était le rôle d'un député. Et le rôle d'un député, historiquement, dans les partis politiques, mais c'est pas du tout prévu par les textes, étaient en gros les grands chefs des partis localement. Voilà. Mais chez En Marche, nous avons eu une longue discussion ce week-end, et nous souhaitons aussi faire émerger des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Parce que ce qui nous paraît important, c'est de créer de la dynamique par rapport à tout ça. Et donc, vous le savez, localement, il est déjà venu ici à votre antenne, il y a David Granel qui souhaite s'investir, il y a Christine Breton, il y a d'autres personnes que je voudrais pas trop citer parce que la liste serait trop longue, mais le rôle du député ne va pas être d'impulser ou de mettre ces personnes à lui, parce qu'on voit où ça a mené les autres partis.
Et donc, puis jadis, un député était là pour cumuler, ce qui normalement ne sera plus le cas.
Alors c'est pas que c'est normalement, c'est que un, la loi l'interdit, et deux, de toute façon, on ne souhaite pas aller dans ce sens-là. Voilà, donc moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de participer à l'émergence d'une nouvelle façon de faire dans la politique, participer à l'émergence du mouvement En Marche, mais en aucun cas d'apparaître comme le chef ou le responsable de ce nouveau mouvement. Je rajoute juste une dernière chose, c'est que par rapport aux interventions précédentes, j'ai l'impression qu'un certain nombre de leaders politiques ne se sont pas rendus compte que les choses avaient changé, et j'ai presque envie de dire que c'est dommage, parce que pour faire un bon match, il faut être à deux. Et là, si ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'il faut avancer et modifier les choses, nous ne nous en sortirons pas. Voilà, donc ma position à moi, elle est d'être sur les missions qui m'ont été confiées en qualité de député. Vous les avez très souvent rappelées, et donc là-dessus, le reste, ça va se faire naturellement avec d'autres personnes.
Oui, donc sur la Narbonnaise, on peut s'attendre à voir émerger d'autres personnes, d'autres personnalités. Vous en avez cité quelques-uns, quelques-unes.
Alors non seulement il faut s'y attendre, mais c'est en train de se préparer. Et le mouvement En Marche est en train de se structurer. Il y a eu, cette semaine, une réunion à Carcassonne, une réunion à Narbonne. Les choses sont en train d'avancer. Et le 8 juillet, nous avons, donc samedi prochain, nous avons une convention à Paris, où le matin, ce sont tous les responsables qui vont se réunir. Et l'après-midi, tous les militants qui souhaitent monter vont se retrouver à Paris pour poser les bases de notre nouveau mouvement.
Oui, c'est bien ce que Alain Perrier rappelle cela, car moi, ce qui me frappe effectivement sur la circo, mais comme partout ailleurs, semble-t-il, indépendamment de ce qui se passe au niveau national, c'est que tous les partis, les anciens partis battus, ne sont pas rendus compte qu'on était en train de changer complètement de monde, si je puis dire, à la fois intellectuel et donc politique, dans la manière de faire de la politique.
Mais il l'avait démontré lors de précédentes élections où les scores du Front National étaient très élevés et remettaient en cause certaines choses. À chaque fois, c'était le même baratin qui restait vain.
Et ce qui me paraît bon, évident en fait en ce moment, on le constate au plan national comme au plan local, c'est que le processus de dissolution, de décomposition des partis traditionnels n'est pas encore arrivé à son terme, hein, et il est probable que ce terme arrivera très rapidement à la fin de l'année, cette année, et en début de l'année prochaine, et que dans ce processus de dissolution des anciens partis et dans le même mouvement de l'organisation du nouveau parti qui va se structurer, va se passer beaucoup de choses, notamment de transfert de compétences des vieux vers le nouveau.
Alors, Alain Perrier.
Non, et puis, on était habitué, je ne sais plus qui exactement a dit ça, mais à ce fameux tic-tac, c'est-à-dire que c'était la droite.
Retour de balancier.
C'était la gauche. Et la logique était de dire, bon, mais là, ça vient de partir à gauche, ça va revenir à droite, ou c'est à droite, ça va revenir à gauche. Et là, aujourd'hui, moi, j'en entends encore qui me disent, profitez-en, vous en avez dans 5 ans, pour 5 ans, et puis, il va y avoir un retour de balancier, et ce retour de balancier, paf, va revenir. Alors, selon d'où ils viennent, ils pensent que ça va revenir à gauche, ou ils pensent que ça va revenir à droite.
Selon qu'ils sont eux-mêmes de droite
voilà.
ou de gauche.
Mais c'est plus du tout comme ça. Et moi, ce que je crains, c'est que s'ils ne sont pas capables de faire émerger un nouveau courant de pensée, un nouveau mode de fonctionnement, il y a deux hypothèses. Soit Macron réussit, et nous allons réussir, j'en suis intimement convaincu, je l'ai dit plusieurs fois à votre antenne, et à ce moment-là, on continuera dans cette dynamique-là, soit le prochain coup de balancier, ça sera pas la gauche ou la droite. On va se retrouver avec... Ça sera un extrême. Voilà, donc, ils ont intérêt, ils font ce qu'ils veulent, je veux dire, mais ils ont intérêt à très rapidement se réinterroger sur leurs pratiques, leur personnalité et leur mode de fonctionnement. Le tic-tac traditionnel, c'est fini.
Pour vous, c'est fini. Alors, le tic-tac de la montre suisse, il faut changer de musique. En conclusion, Alain Perrea, même si, on l'a dit et répété, le travail d'un député, c'est de faire des lois pour la nation, un député, il est quand même élu sur une circonscription, sur un territoire, sur un terroir, qui vous est cher d'ailleurs. Alors, comment comptez-vous utiliser cette spécificité dans votre action de député ? Député de la deuxième circo de l'Aude.
Alors je l'ai dit à plusieurs reprises, et j'ai déjà commencé à le faire au niveau parisien. Ils ont déjà repéré ma personnalité, mon accent, et aussi la façon dont je défends les choses. Donc je crois qu'il y a trois approches. La première, c'est quand l'on va voter des lois qui ont éventuellement des répercussions sur notre territoire, ça va être ma capacité à en discuter avec les gens de ce territoire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de dossiers spécifiques. J'ai déjà commencé à rencontrer les élus du vin, puisque vous le savez, ça va être une de mes priorités. Et nous avons déjà commencé à travailler avec certains députés, Bourgogne et autres. Et là-dessus, on va très rapidement, avant la fin de l'été, créer une réflexion avec tous les députés du vin. Et après, la troisième chose qui me paraît essentielle, c'est de garder les pieds, les mains et l'esprit dans ma circonscription, être autant que possible sur le terrain, rencontrer les gens et faire le lien permanent entre ce qui se passera concrètement sur le terrain et ce que nous vivons à l'Assemblée. J'ai l'impression que très rapidement, on peut se retrouver dans une bulle dans cette Assemblée, en ayant même un souterrain qui nous permet d'aller de l'hémicycle à notre bureau et quasiment sans voir...
Et on perd le contact avec la réalité.
Je précise, parce que peut-être peu de personnes le savent, c'est que l'hémicycle est éclairé jour et nuit avec la même luminosité. Ce qui fait que quand vous êtes dans l'hémicycle, vous ne savez pas...
S'il fait jour ou s'il fait nuit.
S'il fait nuit. Et donc, très rapidement, cette ambiance-là peut vous couper de la réalité. Et moi, ce que je souhaite, c'est rester avec cette réalité qui a fait ce que je suis et qui, je l'espère, fera de moi un député de la circonscription, même si je ne dois pas oublier que nous sommes là pour gérer des enjeux qui sont des enjeux nationaux et voire même internationaux.
Eh bien, merci Alain Perrea. Très belle image pour terminer, d'ailleurs, ce que vous venez d'évoquer. Donc, un député, c'est quelqu'un qui doit savoir bien faire la différence entre le jour et la nuit. C'est ça que vous voulez dire ?
Exactement.
Merci en tout cas, merci aux auditeurs de nous avoir suivis sur cette troisième saison de Radio Barque. Nous nous retrouverons bien évidemment à la rentrée, probablement de temps en temps avec Alain Perrea qui viendra nous dire où est-ce qu'il en est à ce moment-là. Merci encore et non pas à la semaine prochaine, mais à la rentrée des classes.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'est bientôt.